Bonsoir. Certains candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre appellent la Commission électorale nationale indépendante à radier le candidat du FCC à la présidentielle pour avoir violé, selon eux, l'article 36 de la loi électorale relatif à l'utilisation des moyens de l'État à des fins propagandistes. Cet appel est contenu dans une déclaration faite la semaine dernière devant la presse à Kinshasa. En réaction, le candidat du FCC répond qu'il respecte les prescrits de la loi et ne peut recourir au trésor public à des fins électorales. Quelle lecture faire de la problématique de l'utilisation des moyens de l'État par les candidats pendant la période électorale? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons ici au studio Justin Bitakwira, il est ministre du Développement Rural, il est aussi membre du comité stratégique du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Il est également autorité morale de l'Alliance pour la République et la Conscience nationale ARCN en sigle. Bonsoir monsieur le ministre Justin Bitakwira.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Lui, il est au téléphone, c'est Alain Lomandja, il est analyste en question électorale. Bonsoir, monsieur Alain Lomandja.
Bonsoir, Guy Mathieu, bonsoir à tous les auditeurs et salutations particulières à son excellence, monsieur le ministre et au professeur Joly.
Et le professeur Jacques Joly va nous rejoindre. Il est sénateur de l'opposition et inspecteur général du MLC. Il est aussi ancien vice-président de la CENI. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Certains candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre et les leaders de l'opposition politique dénoncent la nomination des agents et cadres de l'État dans l'équipe des campagnes d'Emmanuel Chadari. Ils appellent la CENI à radier sa candidature. Un appel contenu dans une déclaration faite à la presse la semaine dernière à Kinshasa. Ce mercredi, ils ont déposé une requête à la CENI à ce sujet. On écoute le pasteur Théodore Ngoï, porte-parole des candidats présidents, au micro de Paul Matendo.
La Commission électorale nationale indépendante. Nous l'invitons à constater la violation des dispositions de l'article 36 de la loi électorale qui interdisent l'utilisation à des fins de propagande électorale des biens, des finances et du personnel de l'État, des établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte et d'appliquer la mesure idoine de radiation de la candidature de M. Emmanuel Chadari, candidat du pouvoir sortant. Le ministère public compétent de saisir les juridictions compétentes pour l'application des dispositions légales prévues contre les candidats du pouvoir et les FCC afin d'obtenir des sanctions prévues notamment par les dispositions de l'article 36. Le président de la République sortant et le gouvernement sortant sont invités à cesser d'instrumentaliser les églises et les hommes d'église, de cesser de créer des conditions d'insécurité contre le peuple congolais et contre le candidat président de la République, à mettre fin aux tracasseries dirigées contre les hommes d'église ayant contesté leur nomination dans l'équipe de propagande du candidat du pouvoir sortant.
Bonsoir, professeur Jacques Joly.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes sénateur de l'opposition, inspecteur général du MLC. Vous êtes aussi ancien vice-président de la CENI. L'opposition accuse les candidats du FCC d'utiliser les moyens de l'État à des fins propagandistes. Et l'émission est aussi pédagogique. Et si on se réfère à l'article 36 de la loi électorale, qu'est-ce que l'on entend par moyens de l'État?
Merci beaucoup pour la question et surtout l'invitation. Je salue le ministre Bitakwira qui est ici et avec qui nous allons échanger sur cette problématique. Mais je crois qu'il ne faut pas prendre un élément comme ça, il faut prendre l'article à la fois dans son esprit et dans son articulation. Dans son esprit, est interdite l'utilisation de fins de propagande électorale de biens, de finances et du personnel de l'État, des établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte. Et vous avez dit, l'utilisation de biens, des finances, du personnel public visé sur les sujets punis par la radiation. Donc l'opposition, du moins les amis qui ont adressé le courrier à la CENI, n'ont fait que demander l'application de cette disposition. Nous avons tous assisté, et nous assistons chaque jour, à l'utilisation à des fins de propagande électorale de biens de l'État, des ministres de la République, de hauts fonctionnaires de l'État, des ambassadeurs, qui se transforme en agent de propagande d'une plateforme politique électorale. C'est inadmissible. Ce n'est pas possible. Les finances de l'État, de gouverneurs, et qui utilisent l'argent de l'État, des rétrocessions, pour faire la campagne d'un candidat, c'est inadmissible. Les personnels de l'État, les ambassadeurs, des directeurs généraux des entreprises publiques, des établissements publics, habillés en chemise jaune et rouge, il y a même des secrétaires généraux, des présidents des conseils d'administration. Mais il ne faut pas prendre cet article 36 de manière isolée. Il faut l'inscrire dans tout notre système politique constitutionnel. Il faut vous rappeler que l'article 93 et 96, d'abord 96, à ce qui concerne le président de la République, il est dit à cet article que le président de la République, à l'article 96 in fine, il ne peut exercer, n'est-ce pas, donc cette fonction mandat est incompatible avec toute responsabilité au sein des partis politiques. On a trouvé la contourner en appelant les autorités morales. Mais l'autorité morale qui est en face de moi, c'est un grand militant d'un parti politique. Il est tout à ouvrir, en train d'animer, de recruter, d'engager le parti politique, sa plateforme politique. Non, il est ministre de la République, chargé du développement rural, qui doit s'occuper de moi, de ma province, de toutes les provinces. Pas en train de chanter, de danser pour un parti État, non.
Voilà, vous
Vais continuer. L'article 193, l'article 97 en ce qui concerne le ministre. Mais au-delà de cela, il y a la loi portant statut des agents de carrière de suivi de l'État. Le décret-loi relatif à la code de conduite. Tout ça s'est jeté dans l'eau au nom d'une philosophie proche d'un parti État.
Oui, vous avez évoqué, n'est-ce pas, tout ce que vous constatez qui peut être considéré comme étant l'utilisation des biens de l'État à des fins propagandistes. Et vous avez même parlé des gouverneurs en évoquant, n'est-ce pas, la rétrocession. Et quels sont les mécanismes que l'opposition met en place pour surveiller les candidats du FCC afin d'avoir justement des éléments de preuve selon lesquels ils utilisent les moyens de l'État, notamment l'argent?
Mais les moyens de preuve, on cherche les moyens de preuve, c'est lorsqu'ils sont cachés. Ils sont cachés. Il suffisait d'aller voir le jour où ils ont fait la manifestation au stade. C'est avec des véhicules de l'État, bondés d'agents de l'État, de policiers.
Tata Raphaël,
avec des policiers en uniforme. Nous avons des correspondances ou des présidents délégués généraux. Je crois que il s'agit d'une grave ignorance de la déontologie, de l'éthique. Et je voudrais vous dire, vous dites, mais qu'est-ce que nous faisons? L'article 36 dit ceci: toute autorité politique ou administrative, tout parti politique, tout candidat ou toute personne peut saisir la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que les amis ont fait. C'était la CENI d'enquêter, et éventuellement au ministère public, ce n'est pas au parti politique. Nous n'avons pas le moyen d'enquêter. Nous avons dénoncé, et il appartient maintenant à la CENI.
Voilà, vous dites qu'il appartient à la CENI d'agir. Nous avons suivi les rapporteurs de la CENI la semaine dernière. Et il a réagi, n'est-ce pas, à cette démarche de l'opposition en invitant les personnes qui se sentent lésées de constituer un dossier renseigné avec des preuves matérielles pour saisir non la CENI, mais plutôt la Cour constitutionnelle.
Il faut lui dire à M. Kalamba de bien lire le texte. Ici, l'article 36, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'il suffit de faire une lecture simple? Il dit, toute autorité politico-administrative. On suppose que le gouverneur reste neutre, ou l'administrateur du territoire, ou le chef des secteurs. Dans ma province, le gouverneur est allé faire le tour pour menacer des agents de l'État qui n'adhèrent pas au FCC d'être révoqués. C'est très grave.
Et donc c'est une responsabilité de la CENI.
La responsabilité de la CENI. Nous, on dit ici, nous, vous saisissez la Commission électorale nationale indépendante, ou c'est une alternative au fait d'obtenir l'application des dispositions. Donc c'est à la CENI de faire son travail.
Alors si la loi accorde à la CENI ce pouvoir d'éradier, n'est-ce pas, une candidature, vous êtes convaincu que dans les contextes du moment, elle peut se permettre de prendre une telle décision?
Ça veut dire quoi, le contexte?
Les contextes dans les colonies, les contextes politiques.
Il n'y a pas de contexte. Ici, la démocratie, c'est une nomocratie.
Vous voyez la CENI prendre une telle décision aujourd'hui, éradier un candidat du FCC.
Mais pourquoi pas? C'est ça l'état de droit. Donc pour vous, il faut qu'il y ait des lois pour les gens de l'opposition où on peut radier leurs candidats, les invalider, et des lois pour l'FCC où lorsqu'un candidat est pris en flagrant délit, n'est-ce pas, d'utilisation des moyens de l'État, il ne peut pas être radié parce qu'il est candidat du FCC. C'est comme ça que je dois interpréter.
En 2006, Jean-Pierre Bemba était parmi les candidats à la présidentielle. Il était aussi aux affaires, il a battu campagne. On peut dire que à l'époque, il avait aussi confondu les deniers publics avec ses moyens privés.
Mais nous vous disons, aujourd'hui, nous dénonçons. En 2006, puisque vous voulez faire l'amalgame, en 2006, Jean-Pierre Bemba avait un avion personnel. Il avait un hélicoptère personnel.
Il n'y a pas que l'avion qu'on utilise, n'est-ce pas?
Oui,
on utilise des véhicules, on utilise les militaires, les
policiers, vous dire d'abord
les agents de l'État.
Si il faut pas faire,
l'argent,
il ne faut pas faire des comparaisons.
Il sort du
des comparaisons de manière absurde. Nous sommes sur un cas où, dans une émission de télévision publique, confisquée d'ailleurs par cette force, où on fait défiler, et je suis très heureux que mon frère Bitakura n'a pas été cité dans ces défilés.
Là, vous faites allusion à quelle télévision?
À la RTNC, où on a vu défiler un directeur de cabinet du président, des ministres. Comment pouvez-vous expliquer, mon cher ami, que le ministre de la Défense nationale, je dis bien de la Défense nationale, se transforme en membre du comité de sécurité d'une force politique? Les porte-parole du gouvernement, de mon gouvernement, de notre gouvernement, devient le porte-parole d'une force politique. Où est la rupture entre l'État et une force privée?
Merci.
C'est ça la gravité.
Merci, professeur.
C'est ça la gravité.
Nous allons vous redonner la parole. Justin Bitakura, ministre du Développement Rural. Vous êtes aussi membre du comité stratégique du Front commun pour le Congo FCC. Vous êtes également autorité morale de l'Alliance pour la République et la conscience nationale ARCN en sigle. Le candidat du FCC à la présidentielle doit être radié par la CENI pour avoir recouru, n'est-ce pas, aux moyens de l'État à des fins propagandistes. En formulant cette accusation, l'opposition n'a-t-elle pas raison? Parce qu'en fait, la loi est claire à ce sujet. Vous avez suivi le professeur Jacques Joly qui a évoqué des cas.
Encore une
des
fois,
évidences.
Encore une fois, je salue d'abord les auditeurs de Radio Okapi. Je salue M. Ali Lomanga, analyste en question électorale, et je salue mon confrère honorable Njoli, avec qui on se connaît, on partage beaucoup de choses. Et d'abord, je comprends personnellement que le candidat du FCC fait peur. Je comprends. Et c'est tout à fait normal que quand une équipe de Bakobo là veut jouer contre le Real de Madrid, c'est tout à fait normal que certaines personnes pleurnichent.
Est-ce que vous reconnaissez qu'il utilise les moyens de l'État?
Vous savez, en écoutant l'honorable Njoli, lui c'est un juriste, moi je ne le suis pas. Mais après quand même 11 ans à l'Assemblée nationale, j'ai des notions suffisantes en droit. C'est ce qu'on appelle atteinte à l'intégrité morale de quelqu'un. C'est comme ça qu'on appelle en droit, atteinte à l'intégrité morale de quelqu'un.
Vous faites allusion à quoi?
Et c'est une atteinte à l'intégrité morale.
L'accusation du FCC.
Et d'ailleurs, c'est une simple diffamation.
L'accusation de l'opposition.
C'est une diffamation et ça peut coûter cher. Non seulement à celui qui a déclaré, mais aussi à ceux qui vilipendent, à tort ou à raison, le candidat du FCC, Ramazani Shadary. D'abord, vous savez qu'en droit, quand vous n'avez pas de preuves matérielles, il y a des choses dont il ne faut pas se permettre. Il y a des choses dont il ne faut pas se permettre en droit. Et si nous lançons notre cargaison d'avocats.
S'il faut parler des preuves matérielles, le procès Jacques Joly a évoqué les faits que vous avez.
Laissez-moi.
Les candidats du FCC qui est autour de lui, les ministres de la République qui est autour de lui, les gouverneurs,
qui utilisent les véhicules de l'État.
Non, non. Vous savez que la politique, c'est comme les sports. La politique, c'est comme les sports. C'est le fanatisme, en fait. Je dis que c'est le fanatisme et c'est psychologique. Quand une équipe comme AS Vita Club veut jouer contre DSMP, qui sait qui est du côté de Vita Club et qui sait qui est du côté de DSMP? Moi, je dis que j'aurais souhaité.
Lorsque vous voyez des ministres, n'est-ce pas, les membres du gouvernement, les gouverneurs, être utilisés par les candidats du FCC, qu'est-ce que vous appelez cela? Comment vous appelez cela? N'est-ce pas l'utilisation des agents de l'État par un candidat?
Vous savez que mon aîné, Honorable Ndjoli, était vice-président de la CI à l'époque. Vous voulez que je vous dise, combien de candidats du MLC il a financé? Vous voulez que je vous le dise? Combien de candidats il a supporté? Qu'il souhaitait faire élire?
Allez-y.
Alors, je crois ici que, comme je vous l'ai dit, la politique, c'est comme le sport. C'est une question de sentiments. Qui ignore que Bitakwira vient d'un parti politique qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui UNC, Union pour la Nation Congolaise, de Vital Kamerhe. Qui ignore? Je n'ai pas fait de dissidence à Vital Kamerhe, mais j'ai créé mon propre parti. C'est grâce à ce parti que je suis aussi ministre aujourd'hui. Grâce à ce parti.
Voilà, nous parlons de l'utilisation des moyens d'État.
Je vais y arriver, s'il vous plaît. Ne m'interrompez pas, je vous ai vu comment vous lui avez laissé s'exprimer. Ici, nous sommes en compétition. Et toute compétition électorale, c'est comme quelqu'un qui va en guerre. Vous allez lui interdire que pourquoi vous avez associé les généraux dans le plan de guerre? Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait la guerre sans ses généraux? Qui fait le plan de guerre en dehors du général? Vous allez dire à Bitakwira, pourquoi toi aussi, tu deviens membre du FCC alors que tu es ministre? C'est ça qu'on veut me dire?
Dans une guerre, il y a des règles auxquelles on doit se conformer, n'est-ce pas?
Je vous dis, la politique, c'est du fanatisme comme le sport. Ça, je vous le dis. Et nous ne pouvons utiliser que ce qui est à notre disposition, en commençant par les acteurs politiques qui constituent aujourd'hui le FCC. Et ça, on ne le fait pas la nuit.
Mais aussi les agents de l'État.
Les agents de l'État, ça, j'ignore, s'il vous plaît.
Les ministres.
J'ignore. Moi, je sais que quand nous étions au stade, moi, j'ai mobilisé les militants de mon parti et nous avons mobilisé les militants de notre regroupement politique. Qui ignore que pour devenir gouverneur, il y a une compétition? Il y a des provinces. J'ai vu à l'Équateur où un opposant avait gagné l'élection à la province. C'est une compétition entre partis politiques.
Monsieur le ministre,
et vous voulez dire que le gouverneur devient apolitique parce qu'il est gouverneur, alors qu'il appartient à un parti politique, il appartient à un regroupement?
Monsieur le ministre, si ce n'est pas un secret,
est-ce qu'on
peut connaître les budgets de la campagne électorale du candidat du FCC, si ce n'est pas un secret?
Non, d'abord, comptabiliser le nombre de chômeurs à l'opposition et comptabiliser le nombre de gens qui travaillent au FCC. Comptabiliser. Moi, je suis un ancien président.
Le budget de la campagne?
Je vais y arriver. D'abord, je ne suis pas dans les finances, je ne suis pas dans la cellule des finances de la campagne du candidat Chadari. Je suis un ancien président du groupe parlementaire, UNC. Nous avions 17 députés à l'Assemblée nationale, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Chaque député cotise 10% de son salaire, de sa rémunération. Et ce parti a ses cotisations mensuelles, chaque mois. Et c'est retiré à la source. Vous voulez me dire que le FCC n'a pas de gens pour cotiser?
Voilà, monsieur le ministre, on a rien contre les candidats du FCC, hein, mais on parle des faits, n'est-ce pas? Et on voit les candidats du FCC sillonner les différentes provinces et même voyager à l'étranger. L'argent qu'il utilise pour affréter les avions, est-ce que cet argent ne provient pas du trésor public, hein? C'est environ 200 000 dollars par semaine pour affréter un avion. Vous voulez dire que tout cela provient des cotisations des membres du FCC?
Ça fait deux ans que je suis, bientôt deux ans que je suis ministre. Bientôt deux ans. Je cotise mes 10%. Je cotise mes 10% régulièrement. Même les membres de mon parti qui ont du travail à mon cabinet ou ailleurs, ils cotisent à mon parti.
De tout ce qui est utilisé provient des cotisations.
Ça provient des cotisations. Il y a aussi des legs, il y a aussi des dons. Allez, que les amis mettent leurs avocats à nos trousses, allez vérifier au budget, aux finances, allez vérifier à la direction de paye, si vous allez trouver qu'il y a une trace d'un seul rond du trésor public affecté au FCC.
Merci.
Mais quand vous avez plus de 10 000 personnes qui travaillent, chacun cotise, mais vous avez même 5 millions de dollars par mois, c'est faisable. Il faut qu'on nous craigne par notre capacité d'organisation et pas par les moyens dont nous disposons, parce que l'opposition peut avoir plus.
Mais les véhicules de l'État, vous n'allez pas les utiliser, n'est-ce pas, quand vous organisez vos manifestations?
De toute façon, quand moi je suis allé
c'est
au stade,
bien de l'État.
Quand je suis allé au stade, j'étais dans ma voiture privée.
Merci. Alain Lomandja, analyste en question électorale. Comment vous analysez cette problématique de l'utilisation des moyens de l'État par certains candidats?
Oui. Bonsoir, Guy Maté. Je voudrais commencer par quelques principes et considérations de base avant de répondre à la question du jour. Parmi les standards internationaux d'élections crédibles, équitables et transparentes figurent, entre autres, le droit à la prévention de la corruption par l'État, le droit à l'égalité de tous devant la loi, et ici c'est le principe d'équité qui exige que tous les candidats jouissent d'un partage symétrique de chances et qu'ils soient tous placés dans les mêmes conditions. Il y a aussi le droit d'accès à l'information. Vous êtes journaliste et je crois que vous connaissez les difficultés qu'il y a dans notre pays à avoir accès à des informations officielles et crédibles sur le financement des campagnes électorales par les partis politiques. Je ne sais pas s'il existe même une commission de contrôle de ce financement-là. À ces difficultés structurelles et institutionnelles d'accès à l'information s'ajoute aussi l'impuissance juridique de la CENI. Parce que la CENI ne bénéficie d'aucun pouvoir de juridiction pour punir les délinquants électoraux. Rappelez-vous qu'en 2011, elle avait constaté des affiches à poser sur les édifices publics, contrairement à la loi. Mais elle n'a fait que se plaindre parce qu'elle n'a pas le pouvoir de sanction. Ainsi donc, toutes les infractions électorales risquent de souffrir d'un déni de justice parce que les officiers du ministère public ils ne se saisissent pas directement de ces questions-là, comme elles sont très, très délicates et très politiques. Alors, quand on regarde l'article 36, il parle de la saisine de la CENI ou d'un officier du ministère public au fin d'obtenir l'application des sanctions. Or, la CENI dit qu'elle ne peut qu'être notifiée et pas saisie. Et on peut comprendre parce qu'elle n'a pas le pouvoir pour sanctionner. Voyez un peu les contradictions de notre système judiciaire. Pour revenir maintenant aux accusations contre le FCC, je pourrais commencer par évoquer une distinction importante en ce qui concerne le personnel de l'État qui est mentionné dans l'article 36 que nous avons évoqué. Au sens général, le personnel de l'État comprend l'ensemble des personnes qui travaillent au sein des institutions et services de l'État et qui sont à sa charge. Mais au sens restreint, il vise les agents et fonctionnaires de carrière de l'État relevant du statut de la fonction publique. Mais quand on regarde dans les cas d'espèce, on se rend compte que le personnel politique, dont les ministres du gouvernement, font partie du personnel de l'État au sens général du terme. Or, quand on regarde l'équipe de campagne du candidat du FCC, on trouve que ce personnel politique-là est largement engagé et en même temps aussi, on voit parfois des noms des personnes qui relèvent de la fonction publique. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que les membres du FCC ne se posent pas des questions quant au fait de confier des responsabilités aux membres du gouvernement au sein des partis politiques? Pour moi, je trouve une difficulté au regard de l'article 97 de la Constitution. Et il en est de même des gouverneurs, des fonctionnaires et autres agents administratifs de l'État qui ne peuvent pas exercer des fonctions au sein des structures partisanes afin de sauvegarder la neutralité et l'impartialité de l'administration publique. Je voudrais prendre un exemple. Je suis au Kasaï oriental. Il y a un conflit entre un parti politique de l'opposition et un autre de la majorité du FCC. Et on pourrait recourir
à la médiation du gouverneur. Mais on sait que le gouverneur est le responsable provincial de la campagne d'un candidat. Est-ce qu'il pourrait encore jouer son rôle d'autorité publique? C'est à ce niveau-là que je pense que les problèmes se posent, et je ne sais pas si on les comprend d'abord au niveau moral et éthique avant de le regarder au sens politique.
Voilà, vous avez dit que la CENI n'a pas le pouvoir de sanctionner, et pourtant la loi est claire, c'est l'article 36, alinéa 3, toute autorité politico-administrative, tout parti politique, tout candidat ou toute personne peut saisir la Commission électorale nationale indépendante. Et celle-ci a le pouvoir d'éradier ou d'annuler, n'est-ce pas, de la liste quelqu'un, un candidat d'un parti politique. Et donc, c'est un pouvoir que la loi reconnaît à la CENI. Quand vous dites que la CENI n'a pas le pouvoir de sanctionner, alors que la loi lui reconnaît ce pouvoir-là, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
La difficulté, c'est que la même loi dit à la fin, les juridictions citées à l'article 27 connaissent des cas d'abus de biens publics. Donc, il s'agit de la Cour constitutionnelle, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que la CENI peut infliger des sanctions? Je ne sais pas si la CENI jouit de ce pouvoir-là de juridiction, mais à ma connaissance, non, peut-être que le professeur Isidoli peut nous éclairer à ce sujet-là. Moi, je verrais dans cette disposition-là de l'article 36 une sorte de contradiction. Pourquoi on saisit à la fois la CENI ou un officier du ministère public? Pourquoi pas directement l'officier du ministère public? Est-ce que c'est pour que la CENI dénonce cela auprès des cours et tribunaux? Ça dépend de l'interprétation qu'on peut se faire de la loi, mais moi je trouve qu'il y a une ambiguïté et une sorte de difficulté pour la CENI à trancher ces questions-là, parce qu'elle-même, elle est déjà engagée dans un processus qui est très compliqué, et je ne sais pas si elle peut s'en sortir.
Professeur Jacques Joly, nous allons écouter cette réflexion qui vient de Bukavu, à laquelle vous allez réagir.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud de Kivu. C'est tout à fait vrai que certains candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, surtout ceux du FCC, ne respectent pas l'article 36 de la loi électorale en utilisant les fonds du Trésor public à des fins propagandistes et même électorales. Je pense que ces candidats n'ont pas tort en recourant aisément à ces moyens de l'État pour leur intérêt personnel. En fait, quel mécanisme peuvent-ils les en empêcher? Et regardez de près, c'est la conséquence du fait que qu'en leur décès, il n'existe pas pratiquement de véritable contrôle parlementaire capable de constater et de faire sanctionner de telles manœuvres. Le Parlement étant constitué de plus de 50% des membres de la majorité présidentielle, il lui est toujours difficile de pouvoir bloquer efficacement ces situations qui causent tort aux finances publiques du pays. Mais c'est tout de même regrettable.
Professeur Jacques Joly.
Oui. D'abord, je voudrais souligner ce que vous avez relevé auprès de l'abbé Lumanja. La loi est claire, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un contentieux de la campagne électorale. Et comme l'ensemble des contentieux pratiquement électoraux, c'est un contentieux hybride. Vous saisissez la CENI et la CENI prend à son niveau une mesure administrative de radiation qui peut être contestée devant le cours des tribunaux. Donc la
CENI n'éradie pas.
C'est la
CENI qui radie.
C'est la CENI qui radie.
Et maintenant, la personne lésée peut
aller maintenant
aller,
comme
saisir la Cour.
Si la CENI peut invalider même les candidats présidents de la République, dont la CENI peut aisément radier, comme dit d'ailleurs l'article 36, n'est-ce pas, dit l'utilisation des finances est punie de la radiation de la candidature d'un nationaliste ou de regroupement politique.
Et donc la CENI a effectivement le pouvoir de sanctionner.
A le pouvoir de sanctionner. Et je peux vous le dire en conséquence de cause, parce que nous avons appliqué sur un certain nombre de candidats un délicat en 2011. Donc, il a bien sûr le droit de recours devant les cours des tribunaux. Par contre, je crois que l'ami vient de le dire, il faut comprendre qu'ici, il s'agit d'une procédure d'encadrement des agents ou des acteurs électoraux pour éviter justement d'attenter, n'est-ce pas, à la fois au bien public, mais aussi de se toucher à l'équilibre et à l'équité des candidats. Je crois que monsieur le ministre l'a dit. Il dit nous n'avons pas peur du FCC. Le FCC, c'est une coquille vide composée essentiellement des agents de l'État. C'est-à-dire, quand vous avez la commission des finances du FCC, il dit qu'on n'a pas de preuves. On a montré les gens, on a publié, on a entendu des commentaires, des discussions. Ça se trouve, nous l'avons tous là. Lorsque le ministre des Finances de la République est président de la commission finance, n'est-ce pas, du groupement politique, on est dans la patrimonialisation de l'État. Lorsque le responsable de la défense nationale du pays est responsable de la commission, alors quand nous allons avoir des problèmes sur le terrain, nous allons nous confier à nos adversaires, puisque le ministre de la Défense est membre de l'équipe de campagne de le candidat de l'autre. C'est ça le danger. Et la question, ça s'est posé dans toute la démocratie ancienne. Lorsque on veut s'engager dans un tel débat, il faut démissionner. Et il n'y a pas très longtemps, la jurisprudence Collomb en France, il s'était ministre de l'Intérieur. Il voulait se présenter comme maire dans la ville de Lyon. Il a demandé la démission. Donc si mon frère Bitakwira veut aller battre campagne totalement et exclusivement pour le FCC, ben, qu'il quitte. Nous avons eu ce débat-là. Aujourd'hui, des gouverneurs qui sont en même temps des représentants de l'État, parce que chez nous, nous n'avons pas le dualisme comme ailleurs, où il y a un préfet et puis il y a un élu. Ils sont à la fois élus et représentants de l'État. Aujourd'hui, les principes d'impartialité, de neutralité, ces principes sont totalement touché, et nous sommes dans une forme de parti-État qui a pris en otage la République pour conserver le pouvoir de manière monopolistique.
Merci, Monsieur le ministre Bitakwira. Vous allez réagir à cette réaction qui vient une fois de plus de Bukavu, au sud de Kivu.
C'est Rico César depuis Bukavu. En lisant scrupuleusement la loi électorale à son article 36, il paraît vraisemblable que suivant la composition de l'équipe du candidat du FCC, on pourrait laisser dire qu'ils utilisent les moyens de l'État. Pourquoi je l'affirme ainsi? Parce que les déplacements qu'ils font dans les provinces pour faire la campagne de Chadari, c'est le gouvernement qui paye les frais de mission de ces différentes personnalités et non les FCC, à ce que je sache. Donc, il serait tout à fait légal et logique qu'il soit radié de la course. Mais compte tenu de la situation actuelle du pays, cela paraît un peu utopique à quelques jours de la campagne électorale.
Monsieur le ministre Bitakwira.
Je voulais d'abord dire que l'honorable Ndjoli, que nous ne sommes pas une coquille vide. Le FCC est constitué des citoyens congolais et des citoyennes. Si vous voulez les appeler vides, dont ils ne représentent rien, je crois que c'est une erreur d'appréciation. C'est une grosse erreur. Mais je sais pertinemment bien que les amis ont tellement peur des élections. Ils ont tenté un coup à Genève. Ça échoue. D'ailleurs, ça se retourne contre eux. Aujourd'hui, ils tentent un autre coup de faire radier le candidat du FCC. J'ai bien dit que ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est une atteinte à l'intégrité morale du candidat Chadari. Et j'ai bien dit que c'est une diffamation qui peut l'écouter juridiquement cher. Alors, s'agissant d'Éric César, je le suis bien. Tout ça, ce sont des sentiments qui s'expriment. Ce sont des sentiments. Je viens de Mbujimayi. Moi, j'étais dans l'équipe. J'étais dans l'équipe du FCC. D'ailleurs, un des membres du comité stratégique qui a précédé le candidat Chadari. Je vous le dis, je n'ai bénéficié d'aucun franc de frais d'émission. Et je n'avais que mon autorisation de sortie. Donc dire qu'envoyer un membre du gouvernement se déplacer pour accompagner le candidat Chadari, il a bénéficié des frais d'émission faux et archivaux. Mais ce que je sais est
l'avion
que...
affrété.
Pardon?
Cet avion affrété a été loué par qui?
Moi je vous dis qu'il y a de cela 2 ans que nous nous préparons pour ces élections. Les cotisations se font et je peux vous rassurer qu'on n'a pas moins de 5 millions de dollars chaque mois. Nous avons des fonds. Je vous ai dit, calculez le nombre de chômeurs à l'opposition et calculez le nombre de ceux qui travaillent au FCC. Calculez. Faites le calcul. Vous verrez. Nous avons des fonds, nous avons des dons, nous avons des legs que nous pouvons assurer notre campagne sans recourir à qui que ce soit et sans recourir aux moyens de qui que ce soit. Alors, mais les amis avaient une vache à lait de l'opposition, ils ont une vache à lait, ils savent où ils vont puiser, ils peuvent avoir peur d'autres choses, même pas de l'argent. Parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'argent caché quelque part.
C'est quoi cette
vache à lait? Ça circulait plusieurs fois et ça continue à circuler. Vous pensez que quelqu'un peut signer un texte comme celui que j'ai vu à Genève sans avoir rien bénéficié? Alors là, il faut être fou. Là, il faut être fou pour signer un document pareil.
Mais
ces documents doivent avoir coûté des millions et des millions.
On n'a pas remarqué la présence des agents de l'État autour des candidats de l'opposition.
Pardon?
On n'a pas remarqué la présence des agents de l'État en fonction autour des candidats de l'opposition.
Savez-vous que dans mon cabinet, j'ai au moins 3 membres de l'UDPS. Et ils participent tous les jours aux manifestations de l'UDPS. Si vous voulez, vous pouvez venir vérifier, je vais vous les montrer. Peut-être qu'ils cotisent aussi là-bas.
Quel UDPS? Parce que quand on parle d'UDPS aujourd'hui, il faut préciser.
Non, l'IMETE. Peut-être que je n'ai pas quelqu'un du MLC, mais s'il me le proposait, je pourrais lui donner du travail. Mais je dis, ça c'est la main sur le cœur, nous avons nos moyens à nous pour affronter les élections. L'FCC a ses moyens à lui. On ne recourt pas au trésor public. Nous n'avons pas de frais d'émission, du budget et des finances.
Alors, mais parmi les évidences qu'on ne peut pas nier, c'est cette présence des agents de l'État, le personnel politique.
Le personnel politique, il faut le différencier, comme a dit l'expert ici à l'Elomandia, des agents de carrière de l'État. Il faut les différencier. Et ce qui est vrai, ils sont apolitiques. Mais la loi électorale précédente, moi j'aurais démissionné avant de déposer ma candidature. Mais c'est au Parlement qu'on a fait sauter ces verrous. À qui la faute? C'est au parlementaire. Il est là. Moi, je suis plus parlementaire. Je suis pas député. Lui, il est sénateur. Qui a fait sauter les verrous? Qu'on ne démissionne pas. C'est la loi. C'est passé à l'Assemblée nationale et ça a atterri au Sénat. D'ailleurs, c'est au Sénat où on a fait sauter ces verrous.
Merci. Monsieur Ale Lomandja, vous allez réagir à cette réflexion qui vient une fois de plus de Bukavu, Sud Kivu.
Eric Banyanga à partir de Bukavu. Je pense que la CENI aura plus de peine de s'investir dans les suivis et la sanction de ceux qui pourraient utiliser le moyen de l'État dans leur campagne, car la CENI sera devant des allégations difficiles à prouver parce qu'aucun des candidats n'avait déclaré ses biens avant de déposer sa candidature. Et surtout que beaucoup de nos candidats, que ce soit de l'opposition et de la majorité, auraient des comptes offshore.
Monsieur Alain Lomandja.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur sur la difficulté à trouver des preuves matérielles aux allégations sur l'utilisation des biens de l'État, d'autant plus que j'avais déjà souligné dès le départ la difficulté d'accès à l'information dans notre pays. Mais je voudrais quand même aussi y revenir sur le fait que il y a une difficulté supplémentaire et elle est d'ordre institutionnel. Quand vous regardez le fonctionnement du pouvoir chez nous, on dirait que l'administration publique est assez politisée et presque à tous les niveaux. Alors la question qui va demeurer pour moi est d'abord une question de droit et une question éthique. Est-ce qu'il va exister pendant la campagne électorale un État congolais non identifiable au FCC? Et c'est là que je n'ai pas encore entendu la réponse de son Excellence, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, il a le sentiment que les représentants de l'État sont suffisamment en position de neutralité pour être au service de tous les citoyens et de tous les candidats en étant eux-mêmes engagés dans la campagne d'un candidat? Moi, c'est cette question-là que je me pose et je n'ai pas encore entendu la réponse.
Oui, monsieur Alain Lomandja, les opposants ont saisi la CENI depuis hier. À votre avis, quels sont les scénarios possibles?
Pour moi, le premier scénario, ça va être que la CENI va se laver les mains. Elle va dire qu'elle ne fait pas partie des cours des tribunaux et qu'il faut saisir les cours des tribunaux. Et si par hasard ces cours des tribunaux sont saisis, pour moi, ça risque d'être classé sans suite à défaut de preuves matérielles qui prouvent l'utilisation des moyens de l'État. Par contre, si on regarde autrement les choses, évidemment, on ne peut pas imaginer qu'un gouverneur de province, qui est le responsable provincial de la campagne du candidat du FCC, va aller battre campagne dans sa province autrement qu'en utilisant les véhicules de l'État ou les bâtiments de l'État ou des choses comme ça. On ne peut pas l'imaginer. Mais est-ce que notre justice est suffisamment indépendante pour dire le droit à ce moment très, très, très tendu?
Monsieur Alain Lumandja, on va conclure. Après cette dénonciation de l'opposition sur l'utilisation des moyens de l'État, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait changer dans les comportements de l'homme politique congolais, surtout ceux qui sont engagés, n'est-ce pas, dans les processus électoraux?
Mais je pense que nous sommes à un tournant important. Quand je regarde un peu la configuration politique et générale du pays, j'ai l'impression que nous risquons de nous retrouver à un tournant qui peut nous mener soit à plus de démocratie, soit vraiment à l'assassinat de la démocratie. Parce que si l'homme politique ne peut pas faire prendre distance par rapport au parti politique, prendre distance à cet engagement partisan-là pour s'élever au niveau de l'État et être au service de tous, je pense que le pays risque de connaître un tournant très, très dangereux.
Professeur Jacques Joly, c'est votre conclusion aussi, vous avez dénoncé, mais qu'est-ce qui peut changer après cette dénonciation?
Mais nous avons cru que après les rebuffades, le recul de ceux qui ont été mis au grand jour à l'œil nu comme agents du FCC cachés dans les institutions d'appui à la démocratie ou dans les églises ou ailleurs. Bon, là, ce n'est pas le problème. Mais nous demandons aux amis du FCC que de faire en sorte que le processus et ce que nous réclamons soit crédible, soit impartial, soit apaisé. Et qu'ils arrêtent cette confiscation de l'État. Il n'est pas normal qu'un ministre de la Justice soit en même temps coordonnateur d'une commission de centralisation des résultats. À qui devons-nous nous confier? Il n'est pas normal que le ministre des Finances, qu'il n'est pas normal que le PDG d'une grande entreprise publique comme la GECAMINE soit chargé des finances d'un parti politique.
Merci pour
c'est
ça.
Inadmissible. Merci. Et ces gens méditent tout simplement comme nous demandons la radiation.
Oui, monsieur le ministre, juste m'appuiera à votre conclusion.
Ma conclusion est que les amis ont trop peur des élections et que je dis à mon noble Njoli que mon père fut un mouléliste. Quand il allait à la guerre, il utilisait la hache, la lance, la machette et même le bouclier.
Donc tous les moyens.
Tous les moyens.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à William Nouama qui était la technique, à Alain Erung qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.